Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnandi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Soigner des patients avec des Covid longs, c'est ce que fait la clinique du Pontet à Hauteville, reportage.
Un label pour promouvoir la viande de lin. Des éleveurs ont lancé l'association Viande des Pays de Lin. Il y a 2 ans, rencontre.
On fera aussi le point sur la loi agriculture et alimentation adoptée fin 2018.
Et tout de suite, c'est l'actu en bref.
Bourque, en bref.
La vaccination s'élargit encore.
Depuis ce lundi, les 18 ans et plus peuvent s'inscrire à tous les créneaux disponibles. Dès ce 1er juin, un vaccinodrome ouvre au parc des expositions de Bourg-en-Bresse pour augmenter la capacité de vaccination. À ce jour, un tiers des Indinois ont reçu une première dose de vaccin.
Une secrétaire d'État à Saint-Denis-les-Bourg.
Jeudi dernier, Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, était dans l'Ain. Après un passage à Oyonnax dans le cadre de la journée de la résistance, elle s'est arrêtée à l'école primaire de Saint-Denis-les-Bourgs. Elle est allée dans 3 classes pour parler des dispositifs sentinelles et référents. Ce sont des adultes et des enfants dans chaque classe qui sont formés pour prévenir le harcèlement scolaire. Ce phénomène touche 1 enfant sur 10 en moyenne. Nous avons suivi la secrétaire d'État dans sa visite.
On vient passer un petit peu de temps ensemble.
Donc chaque semaine, les élèves posent leurs questions dans une boîte lorsqu'ils ont rencontré un souci, soit dans la cour de récréation, soit en classe, il y a quelque chose qui les interroge. Et donc les élèves discutent entre eux, tirent au sort les questions et discutent entre eux pour essayer de résoudre le problème rencontré.
On a des petits papiers si vous voulez tester un petit peu le...
Donc
ces petits papiers.
Donc on tire au sort.
Qui tire le premier?
Problème. Kyle et Emmerich se sont moqués de mon dessin.
Et comment on fait pour résoudre un problème? Parce que quand quelqu'un se moque par exemple d'un dessin, comme là c'est écrit dans le petit mot, ça fait mal. Si ça fait mal, c'est de fait, ça veut dire que ça ne fait pas du bien, c'est pas agréable. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que le camarade se ressente ça?
On fait un message clair.
C'est quoi un message clair?
Un message clair, c'est quand tu t'adresses à une personne qui te fait du mal et tu leur dis ce que ça ressent et les autres ils écoutent et ils essayent de chercher une solution pour arrêter.
Il faut accompagner ces initiatives dans la pédagogie de nos écoles. Pouvoir s'exprimer, exprimer clairement ce qu'on ressent, ce qu'on a ressenti, poser les sujets du non-recours aux droits, des droits des enfants, c'est absolument essentiel. Mais pour pouvoir le faire, il faut donner des outils aux enfants. Donc la boîte à mots ou les méthodes de communication non violente qu'on appelle en classe des messages clairs permettent aux enfants d'avoir les outils pour s'exprimer et prendre pleinement leur place dans la société. Et je crois que c'est le début d'un parcours de citoyenneté, puisque c'est déjà le fait de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, ne pas subir un conflit, pouvoir l'expliquer et du coup le résoudre. Et je crois que c'est extrêmement précieux.
Donc on parle de plus en plus de harcèlement, la parole se libère. Qu'est-ce que le gouvernement propose pour limiter le harcèlement dans les classes?
Aujourd'hui, il y a une violence de plus en plus forte dans notre société et elle n'épargne pas nos écoles ni les plus jeunes. Et c'est pour ça que, avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous avons déployé et développé, par exemple, des référents harcèlement dans l'ensemble des établissements, mais également développé, par exemple, cette communication non violente, permettre aussi, parce que je crois que c'est absolument important, l'aide et l'éveil pair à pair, c'est-à-dire que ce sont des étudiants ou des élèves qui sont également engagés, et donc en éveil, donc ils doivent accompagner la médiation. Et au-delà de ça, je crois que c'est un bouclier qu'il faut organiser, une sorte de bouclier autour des enfants. Faut remettre les choses vraiment là où elles sont, en accompagnant les parents, en accompagnant également les enseignants et évidemment la place de la justice et des forces de l'ordre, parce que aujourd'hui le harcèlement ou le cyberharcèlement a des conséquences malheureusement des fois dramatiques qui peuvent mener jusqu'à la mort. Et c'est bien ce bouclier autour des enfants qui permettra d'avancer. au-delà de ce bouclier de ces partenaires qui doivent travailler ensemble. C'est pour ça que nous le faisons avec chacun des acteurs, et le premier d'entre eux reste évidemment le foyer familial. Il y a le sujet aujourd'hui des réseaux sociaux, sur lequel le cyberharcèlement, donc la version plutôt numérique du harcèlement, a des conséquences, et sur lequel, évidemment, nous travaillons avec les plateformes pour qu'ils s'engagent encore plus en termes de responsabilité, de modération, et également de pédagogie autour de l'importance des réseaux sociaux.
C'était la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, Sarah El Haïry, en visite à l'école de Saint-Denis-les-Bourgs.
Radio B.
Radio B.
C'est le retour en Pro D2 pour l'US Bressane.
L'équipe de rugby Bressane s'est imposée 36 à 16 contre le SC Albi dimanche dernier. Une victoire qui annonce la montée en Pro D2 pour les Violets, 2 ans après être redescendus en National. La finale aura lieu dimanche prochain, le 5 juin à 15h contre Narbonne, et ce sera à Bourgoin.
Une journée spéciale sur la gestion de l'eau dans l'agriculture.
C'est ce mardi 1er juin de 9h à 17h. Le syndicat du bassin versant de la Ressouze, en partenariat avec le lycée agricole des Sardières, organise cette journée avec des ateliers, des expositions et des témoignages. 20 intervenants seront aussi présents pour parler de l'eau potable, des étangs et de la préservation de la biodiversité. L'entrée est gratuite.
2 minutes, une actu.
Aujourd'hui, on revient sur la loi Egalim. Le gouvernement veut retoucher cette loi sur l'agriculture et l'alimentation. Pourquoi ?
Alors le compte n'y est pas pour les producteurs, ils n'arrivent toujours pas à être payés au juste prix. Et c'était l'un des objectifs de la loi Agriculture et Alimentation adoptée fin 2018. Cette dernière prévoyait aussi de rééquilibrer les relations entre la grande distribution et les agriculteurs. En clair, empêcher que les agriculteurs vendent leurs produits à perte. Avec cette loi, le producteur fixe un prix en fonction de ses coûts de production. Si le prix proposé par l'acheteur est abusivement bas, sa responsabilité peut être engagée. Egalim permet aussi aux producteurs de se réunir en association. C'est ce qu'ont fait des agriculteurs de l'Ain. On en parlera juste après. Le but, leur permettre de peser sur les négociations.
Et cette loi a-t-elle réussi à augmenter le revenu des producteurs ?
Alors, pas vraiment, selon un rapport publié fin 2019. La loi a peu d'impact sur leurs recettes et leurs charges ne sont toujours pas prises en compte. Les effets de la loi dépendent aussi de la filière. Ils sont visibles sur certaines, comme celle du lait, où il y a des obligations. La proposition de loi portée par le député de l'Aube de la majorité, Grégoire Besson-Moreau, veut mettre fin aux négociations des prix des productions agricoles. Une clause, elle aussi obligatoire, permettrait de revoir les prix si le coût des matières premières augmente ou baisse. Le député propose aussi que les tarifs soient négociés pour 3 ans. Ce texte, soutenu par le gouvernement, doit être débattu en urgence cet été pour s'appliquer dès le mois d'octobre.
L'invité de Radio B.
Être rémunéré au juste prix, c'est ce que réclament depuis des années les agriculteurs. Les soutenir et manger de la viande de son territoire, c'est aussi le souhait de plus en plus de personnes. Face à ce constat et avec l'adoption de la loi Agriculture et Alimentation, l'association Viande des Pays de l'Ain a vu le jour. Jonathan Janichon est éleveur de vaches allaitantes Limousine à Sulignat et président de l'association des viandes Pays de l'Ain.
On était un petit groupe d'éleveurs en 2019. On militait pour vendre des animaux au coût de production. Et dans notre cheminement, on s'est aperçu que ce que demandait le consommateur, c'était des animaux produits localement, respecter le plus possible l'environnement, que ce soit au niveau des temps de transport ou que ce soit dans les méthodes d'élevage.
Quel cahier des charges pour pouvoir adhérer à l'association des viandes des Pays de l'Ain pour les éleveurs ?
Bien entendu, les animaux doivent être impérativement nés sur le département, élevés, engraissés et abattus aussi. Ça fait partie du cahier des charges de viande des Pays de l'Ain. Nous demandons aussi aux éleveurs aujourd'hui d'adhérer à la charte des bonnes pratiques d'élevage qui va être transformé aujourd'hui avec le diagnostic Bovywell qui correspond en fait à un certain niveau de normes minima du bien-être animal, du bien-être aussi de l'environnement.
Quelle rémunération pour les agriculteurs en passant par les viandes des Pays de l'Ain ?
Donc très concrètement, quand un agriculteur vend une vache aujourd'hui, Ils touchent à peu près 400 euros de plus de plus-value grâce à l'association Viande des Pays de l'Ain. Beaucoup d'agriculteurs voudraient encore plus, ça c'est sûr, moi le premier. Il nous faut du temps, bien entendu, pour atteindre des volumes qui soient suffisants pour nos exploitations agricoles. Mais le temps en faisant, on voit qu'aujourd'hui, voilà, une nouvelle démarche est lancée. Les grandes surfaces nous suivent. Et je pense que dans quelques années, on pourra faire en sorte qu'une majorité des animaux soient payés au coût de production.
Et les distributeurs, alors, comment ils ont réagi à la naissance de votre association ?
Donc les distributeurs ont assez bien réagi. Certains ont même été moteurs dans la construction du schéma de Viande des Pays de l'Ain. Bien entendu, avec toujours des réserves économiques. Hein, vous le savez, on vend la viande 1 euro plus cher, donc forcément, l'impact du choix au niveau du prix est très important pour le consommateur et ce qui rebutait certaines grandes surfaces. Mais le consommateur est prêt à mettre un peu plus quand il sait que l'agriculteur est rémunéré, quand il sait que le produit est bon derrière, et bon pour l'environnement aussi.
Quelle différence pour un agriculteur de faire une vente directe ou alors de choisir de vendre en grande surface ?
L'avantage de l'association Viande des Pays de l'Ain est qu'elle permet à l'agriculteur, un, de rester concentré sur son travail de départ qui est, bien entendu, élever des animaux, bien les nourrir, les soigner quand c'est le moment, parce que malheureusement, ils peuvent tomber malades et il faut que les agriculteurs soient là quand c'est le moment, et de pas passer de temps sur la vente, parce que la vente est quand même un travail spécifique qui prend du temps, où il faut être aussi formé, c'est un métier qui s'apprend. Donc l'association permet de pallier à cet équilibre-là, mais il permet aussi de pallier à l'équilibre de la fourniture, c'est-à-dire qu'un exploitant qui a 60 vaches allaitantes, il va avoir 30 génisses par an. Si demain une grande surface lui demande 60 génisses par an pour en avoir à peu près une par semaine, il n'est pas capable de fournir justement le marché, donc il ne peut pas accéder à ce marché-là. L'avantage de l'association Viande des Pays de l'Ain est qu'elle permet aux éleveurs justement de pouvoir accéder à des marchés qu'ils ne peuvent pas accéder tout seuls.
La viande de ce label est produite par les 80 éleveurs indinois adhérents à l'association et vendue un peu partout dans le département et chez nos proches voisins. Leurs viandes sont aussi de plus en plus proposées dans les cantines scolaires, les collèges, les lycées ou encore dans des structures comme le Parc des Oiseaux. C'est aujourd'hui la deuxième activité de l'association. Parmi les adhérents indinois, la ferme du Bon Repos à Viria de Christian et Justin Chattard. Ils élèvent des bovins de charolais, des volailles de Bresse. Une histoire familiale, Justin s'est installé avec son père fin 2018. Aujourd'hui, il a 26 ans, il représente la future génération et veut redorer l'image de sa profession.
Viande des Pays de l'Ain, en fait, commercialise des animaux vendus au coût de production. Donc ça veut dire que l'éleveur est rémunéré à sa juste valeur. Donc, ce qui ramène quand même de la solidité et de la trésorerie sur les exploitations agricoles. Parce qu'aujourd'hui, le cours du marché est à peu près 1 euro en dessous du coût de production. Donc ce qui fait que pour nous, c'est une vraie plus-value et c'est très important.
Et donc vous avez parlé tout à l'heure dans votre discours d'agribashing. Est-ce que vous le ressentez personnellement ?
Oui, on le ressent. Aujourd'hui, il y a plein d'émissions qu'on voit à la télé, il y a sur les réseaux sociaux, il y a certains groupes activistes qui montrent des images qui ne sont en fait pas représentatrices de la réalité parce que c'est des cas isolés. Et aujourd'hui, la plupart des éleveurs font très bien leur travail, sont proches de leurs animaux, quasiment vivent pour eux parce qu'on y est H24, on les soigne, on les élève et pour nous, c'est très important, quoi. Et aujourd'hui, oui, forcément, on essaye de faire la marche arrière, donc nous de promouvoir ce qu'on fait au lieu de promouvoir ce qu'eux promouvent à la télé et ce qui n'est pas la réalité, quoi.
Et donc, est-ce que vous pensez que cette association, donc Viande des Pays de l'Ain, ça peut permettre aussi de lutter contre cet agribashing ?
Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on ouvre nos portes, voilà, on n'a rien à cacher, comme on le dit. Moi, mes bêtes, elles sont dehors, elles me connaissent, elles n'ont pas peur de moi, au contraire, elles viennent me voir. J'ai rien à cacher, au contraire, j'ai tout à montrer, donc j'invite tous ceux qui veulent venir voir une ferme de Viande des Pays de l'Ain à venir chez moi, les portes sont ouvertes, j'ai rien à cacher, tout est ouvert, donc... Donc voilà.
En tant que jeune agriculteur, comment vous voyez l'avenir ?
L'avenir aujourd'hui, on n'arrive pas trop à voir comment il va arriver parce qu'on a une PAC, une politique agricole commune qui favorise de moins en moins l'élevage. On a l'agribashing. On a une rémunération qui n'est pas au rendez-vous. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on a monté des associations comme Viande des Pays de l'Ain, où on essaye de pallier à tous ces problèmes-là, que ce soit l'agribashing, la rémunération du producteur et aussi le consommateur qui veut du produit local, pour essayer de pallier à tout ça. Et notre ambition, c'est que cette marque se développe le plus possible pour que derrière, les agriculteurs puissent en vivre et qu'on puisse installer des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Et c'est notre souveraineté alimentaire au niveau du pays qui est en jeu, quoi.
C'était Justin Chattard de la ferme du Bon Repos à Viria.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une bague.
En reportage avec Radio B.
Le Covid long, c'est des symptômes liés au Covid, comme la fatigue et les difficultés à respirer, et qui persistent plus d'un mois après leur apparition. Ils touchent les patients à tout âge, 50% d'entre eux ont moins de 45 ans. À la clinique du souffle du Poncet à Hauteville, un tiers des patients ont un Covid long, un nouveau public qui est arrivé en début d'année. Nous avons visité la clinique pour comprendre leur prise en charge. Docteur Lemonnier, pneumologue à la clinique.
Donc nous arrivons sur le plateau technique qui comporte plusieurs salles dédiées à l'évaluation respiratoire qui va permettre de orienter nos patients en fonction de leur groupe de niveau.
Ça consiste en quoi concrètement ces machines ?
En fait, on demande aux patients de respirer normalement ou d'inspirer fort, d'expirer fort. Et la machine va nous donner après un rendu de débit, de volume par rapport à une norme théorique. Et on va pouvoir dire le patient a une amputation de sa capacité respiratoire de 50% ou de 40%. Ces tests sont faits à l'entrée et à la sortie.
On va partir comme la dernière fois, on va partir sur 3 séries où on va faire 15 répétitions. Donc, quand vous faites vos 15 répétitions, vous arrêtez, vous faites une pause.
Mathilde, l'enseignante en activité physique adaptée, fait une séance de renforcement musculaire. Je suis Benjamin Chenauer, responsable de réhabilitation à la clinique du souffle Pontet. L'idée, c'est de regagner de l'autonomie musculaire pour diminuer l'essoufflement qui est lié au déconditionnement musculaire de nos patients.
Et c'est tous les combien qui font ça ?
Alors, ils ont 3 séances de renforcement musculaire par semaine.
Vous pouvez y aller pour les 3 séries de 15 répétitions tranquillement.
Donc on est au gymnase. Nos patients ont des séances d'ergocycle quotidiennes.
Je m'appelle Nicolas Riffaut et je suis enseignant en activité physique adaptée. Ben là, on est donc dans une séance de réentraînement à l'effort. C'est des patients qui sont relativement limités, qui peuvent être sous oxygène, comme le monsieur qu'on voit là-bas. Donc le but, c'est de travailler leur endurance à l'effort pour qu'ils retrouvent justement un peu de souffle, comme on dit vulgairement, et qu'ils aillent mieux au niveau de leur santé globale.
Donc là, vous avez mis un objet sur le doigt du monsieur.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça s'appelle un saturomètre qui mesure simplement la saturation en oxygène dans le sang. Donc, plus c'est proche de 100%, mieux c'est. Et on surveille si ça ne désature pas en dessous de 90%, ce qui pourrait les mettre grandement en difficulté, voire en danger au niveau de leur santé de manière immédiate ou chronique.
Dans la clinique, on trouve aussi des salles de relaxation, de kiné, des salles pour les activités sportives ou une piscine. La prise en charge est multidisciplinaire. Tout est mis en œuvre pour soigner les patients post-Covid. Ils restent en séjour en moyenne 6 à 8 semaines pour retrouver leur capacité respiratoire et musculaire. Ils sont 30 en ce moment à la clinique et parmi eux, Gérard, 79 ans, qui habite le Val-Romé. Il a eu le Covid en avril dernier avec sa femme. Son état se détériore alors, il ne fait plus rien et a du mal à respirer. Il part pour 2 semaines à l'hôpital du Bugey Sud, puis il entre à la clinique du souffle. Au début, il se déplace tous les jours avec sa bonbonne d'oxygène, mais après un mois sur place, il peut marcher sans problème de respiration.
C'est un établissement où on s'occupe bien de nous. Et à la sortie, vous voyez, je me suis bien rétabli. M'enlever l'oxygène il y a déjà une quinzaine de jours. Normalement, je le gardais pour les efforts uniquement. Par exemple, pour le vélo au gymnase, etc. Sinon, je n'ai plus l'oxygène. Et théoriquement, je devrais rentrer chez moi la semaine prochaine.
Les patients viennent de toute la France. Chantal est arrivée la veille depuis la Grande Motte. Elle a eu le Covid en décembre dernier et n'a pas été hospitalisée. Pendant des mois, elle reste isolée chez elle avec tous les symptômes. Grande fatigue, difficultés respiratoires, maux de tête notamment. Son médecin a fini par lui conseiller d'aller à la clinique du souffle suite à la persistance de ses symptômes. Aujourd'hui, elle est soulagée d'être prise en charge dans l'établissement.
C'est une chance de pouvoir être acceptée dans une telle clinique, de pouvoir bénéficier de soins, d'une prise en charge globale. Parce que chez nous, c'est par moments comme une grande solitude, quoi. J'ai souvent entendu dire « restez chez vous, attendez que ça passe, restez couché ». Et ici, j'ai l'impression que je suis entendue et écoutée. Et puis, un parcours de soins qui nous est proposé. Et tout est sur place, en fait. C'est ce qui est, pour nous, qui est très bien. Je dis pour nous parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Chez nous, bon, on t'attend. Hein, c'est le parcours du combattant, en fait. Et on se sent seul parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de prise en charge totale. Il y a beaucoup de frais à nos charges, à notre charge.
Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ?
Aujourd'hui, en priorité, c'est l'essoufflement, une fatigue extrême, toujours des vertiges, des malaises post-effort, des douleurs et des faiblesses musculaires, des maux de tête, des jours des maux de tête, à rester couché et pouvoir rien faire. Comme les douleurs d'ailleurs, il y a des moments où je ne peux plus marcher, je suis obligée de rester couché. Quelquefois, j'ai l'impression d'avoir une démarche perturbée, une sensation d'ivresse, alors que je bois pas. Pourtant, je viens d'une région où il y a du bon vin.
Et là, depuis hier, il s'est passé quoi ? Vous avez fait des tests ?
Alors, j'ai été très bien accueillie hier et rassurée. J'ai rencontré le médecin, j'ai rencontré un infirmier qui m'a pris les gaz du sang, qui m'a pris la tension. Voilà, on m'a fait une prise de sang aussi. Je sais que je vais voir des kinés, des thérapeutes, une psychologue. Voilà, tout un ensemble de personnels soignants qui vont pouvoir m'aider à retrouver une autonomie, je pense, et de la mobilité et plus de confiance. Enfin, j'espère que ça va m'aider à avancer.
Comme Chantal, la grande majorité des patients avec un Covid long n'a pas été hospitalisée et n'a pas fait de forme grave du Covid. La clinique continue de fonctionner comme avant, mais en faisant plus attention à ces patients post-Covid qui demandent plus de surveillance. Ils sont environ 70 salariés dans la clinique et font des points réguliers pour parler de l'état des patients. Brigitte Aymin est la directrice de la clinique du Pontet à Hauteville. Elle nous parle de l'adaptation de l'établissement ces derniers mois.
Alors il a fallu qu'on s'adapte hein, au niveau de cette nouvelle prise en charge. Les premières demandes ont émané de services hospitaliers pour des patients qu'ils ont récupérés soit en post-réanimation ou carrément des patients qui venaient du domicile et qui sont arrivés chez eux avec des symptômes persistants du Covid. Et donc les demandes ont commencé à affluer il y a maintenant, sur le Covid long, je dirais depuis 4-5 mois à peu près. On a des Covid, post-Covid et Covid long qui représente environ un tiers de notre capacité d'accueil.
Et comment vous voyez l'avenir pour la clinique ? Est-ce que vous allez vous orienter plus vers les Covid longs ? Est-ce que vous allez rester comme ça ?
Notre patientèle, elle arrive de la France entière sur les prises en charge de respiratoires. Et aujourd'hui de Covid, on s'est adapté à cette prise en charge, parce que c'est quand même juste le cœur de notre métier, hein, que les symptômes respiratoires. Et tant qu'il y en aura besoin, ben on sera là hein, pour rendre service à la population. On est là pour ça, c'est aussi notre cœur de métier. On s'adaptera en fonction de la demande.
Et d'autres cliniques du souffle existent en France, elles appartiennent toutes au groupe Korian. Elles sont en Auvergne, dans les Pyrénées ou dans l'Hérault, et il y en a une vingtaine en tout. Toutes peuvent accueillir des patients post-Covid pour les remettre sur pied. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
On se retrouve lundi prochain à 18h. Bonne semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite ?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est. À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.